Nouvelle semaine et nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée cette fois-ci à l'histoire de la consommation. Après le 32e épisode de notre feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide, nous recevrons l'historienne Danielle Vollmann, directrice de recherche émérite au CNRS, qui publie chez Payot une histoire des locataires et des propriétaires en France depuis la fin du 18e siècle. Avec elle, nous aborderons une histoire très française, celle du trio que forment depuis le 19e siècle locataires, propriétaires et gouvernement ou État. Puis Michel Bonneau, géographe et historien, nous présentera ses travaux publiés il y a 3 ans aux presses universitaires de Rennes, La Table des Pauvres, sous-titrée Cuisiner dans les villes et les cités industrielles, une longue étude internationale sur la façon dont se nourrissaient les pauvres en Europe entre 1780 et 1950. Une bonne façon de débuter en tout cas notre semaine consacrée à la consommation et à son histoire, puisque demain nous explorerons l'explosion de la consommation des Trente Glorieuses avec un très beau documentaire qu'Amaury Chardot nous présentera en fin d'émission. Mais tout de suite, 32e épisode de notre feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide, préparé par Anaïs Quin et consacré ce matin à l'acquisition de la bombe atomique par l'URSS.
We must remember that Australia, New Zealand and Canada
are
all directly affected by this evil power.
President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb.
I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy.
La fabrique de la guerre froide.
I am glad that you have me given the opportunity of expressing to you here my deep sense of gratitude as a man, as a good European, and as a Jew. It cannot be my task today to act as judge of the conduct of a nation.
En 1949, on fête avec enthousiasme l'anniversaire d'Albert Einstein, dont la théorie de la relativité avait fondé les recherches en matière d'énergie nucléaire. Depuis, ce scientifique, le plus célèbre au monde, ne cesse d'appeler à la mesure et à la prudence quant aux usages militaires de l'arme atomique. En 1949 aussi, l'Union soviétique teste sa première bombe atomique au Kazakhstan. Les États-Unis ne pensaient pas en perdre si vite le monopole. Maurice Weiss.
Alors, les Américains étaient au courant de ce que les Soviétiques faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour acquérir la maîtrise du nucléaire militaire et pour pouvoir faire exploser à leur tour une bombe atomique. Le problème, c'est que les Américains étaient, au fond, assez confiants dans le fait que les Soviétiques étaient en retard et qu'il faudrait attendre un certain nombre d'années, pensez 10 ans, avant que les Soviétiques n'acquièrent à leur tour cette capacité. Et du coup, quand on apprend cette nouvelle, donc les Américains apprennent cette nouvelle en 1949, c'est à la fois une confirmation de ce qu'ils redoutaient, mais en même temps une information extrêmement redoutable pour eux, parce que ça prouve d'une part que les Soviétiques ont été plus rapides qu'ils ne le pensaient et que, fondamentalement, ils ont perdu le monopole. Et d'ailleurs, la preuve en est, on le sait en particulier par les témoignages des diplomates et des membres du département d'État, mais aussi tout simplement par la presse américaine qui fait ses gros titres sur, justement, le fait que le diable maintenant, puisque on est passé de la période de la Grande Alliance à la guerre froide, a à son tour l'arme décisive, et par conséquent là on est vraiment en plein dans la guerre froide.
Donc en 1949 on appelle l'Union soviétique le diable.
Ah oui, oui, sans aucun doute. C'est vraiment le moment où les mauvaises nouvelles, si on peut dire, s'accumulent du point de vue occidental, puisque c'est l'année aussi où, comme vous le savez, Mao Tse-tung réussit à accéder au pouvoir total en Chine, et par conséquent, c'est une autre défaite pour les Américains, une défaite qui était prévisible, qui était prévue. Tous les clignotants sont du côté d'une tension de plus en plus forte et qui va s'accentuer. On peut dire qu'on est là vraiment dans les années noires de la guerre froide.
Finalement, les Américains ont sous-estimé la vitesse de réaction de l'Union soviétique en ce qui concerne la recherche atomique et également la capacité de Mao Tse-tung à prendre le pouvoir. Les projections américaines avaient 10 ans de retard sur ce qui était réellement en train de se passer.
Oui, je pense qu'on peut dire cela. On peut dire qu'il y a une sous-estimation des dangers potentiels. Ce n'est pas simplement sur ces deux aspects que vous avez évoqués, mais sur bien d'autres où les prévisions ne sont pas bonnes. Ça ne veut pas dire que les Américains n'étaient pas au courant, ne se doutaient pas, n'étaient pas conscients, mais ils pensaient qu'il faudrait un peu plus de temps. D'une certaine façon, on a vu combien de temps ont duré les négociations récentes avec l'Iran. Et ces négociations, la longueur de ces négociations, la technicité de ces négociations manifestent précisément l'importance de ne pas négliger les détails dans une négociation où on peut évidemment perdre la face parce qu'on a abouti à un accord qui apparaît être un accord fallacieux. Et par conséquent, là, dans les années 46-49, les Américains étaient trop confiants dans leur monopole et pensaient pouvoir le détenir encore longtemps.
32e épisode de ce feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide, donc concocté par Anaïs Quien et Françoise Camard. Vous pouvez évidemment le réécouter sur le site de France Culture, www.franceculture.fr, mais également le télécharger pour garder l'ensemble de la série et la réécouter ou la faire écouter quand vous le souhaitez. Bonjour Anaïs Quien.
Bonjour, bonjour à tous.
Et bonjour à vous Daniel Vollmann.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes l'auteur d'un sujet extrêmement intéressant, les relations entre locataires et propriétaires. Ça s'appelle « Locataires et propriétaires », une histoire française parue tout juste chez Payot. Vous êtes attaqué donc à cette longue histoire en réfléchissant en historienne à la place que pouvait tenir au milieu de ces relations entre locataires et propriétaires l'État, puisque vous dites qu'une des particularités françaises, ça n'est pas la seule, mais une des particularités, c'est peut-être la place particulière d'arbitre qu'on a demandé à l'État donc depuis le milieu du 19e siècle. Mais vous remontez plus haut, vous remontez à la fin du 18e siècle, en évoquant évidemment Louis-Sébastien Mercier et tous ceux qui peuvent servir de témoignage à ce qu'était la location avant la Révolution française, pour nous dire effectivement qu'il y a eu diverses périodes, diverses époques dans ces relations entre locataires et propriétaires, Daniel Vollmann.
Oui, en fait, l'intervention de l'État entre les locataires et les propriétaires ne s'est pas faite tout de suite. Ça a pris du temps, et ça a pris du temps parce que les classes populaires étaient mal logées, mais ça depuis toujours, les pauvres n'ont pas assez d'argent pour bien se loger. Mais la question sociale était grave, il y avait des révoltes, il y avait des révolutions, et les divers gouvernements, mais surtout à partir de la Troisième République, se sont dit qu'il fallait peut-être intervenir, réguler ces relations, permettre aux classes populaires d'être un peu mieux logées pour pouvoir aller travailler correctement. Il y avait aussi une demande, disons, économique de la part des patrons. Et donc, peu à peu, l'idée que l'État pourrait intervenir dans le logement, qui est en principe une affaire privée, où l'État n'a pas à intervenir, c'est peu à peu formalisé jusqu'à donner des lois où en effet, il y avait une réglementation.
Anaïs Quien.
Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir et de constater encore aujourd'hui, finalement, que les deux premiers partis finalement de ce trio, c'est-à-dire les locataires et les propriétaires, ces deux groupes de pression se construisent en parallèle depuis la fin du XVIIIe siècle, se construisent en groupes de pression et se construisent en opposition permanente, et on peine quand même malgré tout encore aujourd'hui à trouver une solution pour réconcilier à la fois les questions de droit au logement et les droits des propriétaires. On est perpétuellement dans une équation sans solution, où finalement, et on peut d'ailleurs, on voit des individus circuler entre les problématiques de droit au logement et l'accès à la propriété en permanence.
C'est inconciliable, en fait. C'est inconciliable. Mais les deux groupes de pression, comme vous dites, se constituent en même temps. En fait, pas tout à fait. C'est-à-dire que la première chose, et c'est pour ça que j'ai appelé cette histoire une histoire française, la première chose, c'est que à la Révolution, qui est le moment de l'abolition des privilèges, où tout le monde devrait être libre, avoir accès à la chose publique, payer ses impôts, qu'il n'y ait plus les nobles et le clergé qui ne payent pas et les autres qui payent, la Révolution a inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et donc dans la Constitution, le droit de propriété. Donc la propriété est garantie par la Constitution, et donc d'une certaine façon, le groupe des propriétaires a obtenu quelque chose d'important.
Surtout qu'il y a, vous le dites, un transfert radical de propriété au moment de la Révolution.
Avec la vente des biens nationaux, et le fait, bien sûr, c'est pas les pauvres qui ont acheté les biens nationaux, mais disons que ce qu'on appellerait maintenant les classes moyennes, ont eu accès à la propriété, et pas seulement pour se loger, mais aussi pour louer. Et donc, les propriétaires leur propriété, leurs droits étaient garantis. Très bien. Or, tout au long du XIXe siècle, avec l'urbanisation, avec l'industrialisation, la main-d'œuvre qui venait des campagnes pour s'installer en ville, parce que c'est là qu'il y avait du travail, elle avait du mal à se loger. Et elle s'est révoltée un certain nombre de fois. C'était pas le logement qui était mis en avant, c'était le fait d'avoir des meilleurs salaires. Mais avoir un meilleur salaire, ça permet d'avoir de l'argent pour se loger. Or, il s'est passé un événement très important, qui est la Commune de Paris. Et pendant la Commune de Paris, les communards ont dit qu'on payait plus le loyer. C'est un peu compliqué, mais enfin, l'idée, c'était on paye plus le loyer. Donc, quand la Commune a été écrasée, les propriétaires ont vu le vent du boulet passer, ont eu très peur, et dès 71, à la fin de l'année 71 et en 72, ils sont, pour la première fois, constituer des associations. Donc des associations de propriétaires pour pour protéger les droits. Ils appelaient ça s'élever contre les vexatures de toutes sortes. Et les vexatures, c'était surtout ces méchants locataires qui payaient pas. Donc les propriétaires se sont trouvés avec le droit de propriété garanti par la Constitution, mais ça ne leur suffisait pas, et donc ils se sont groupés en associations. Et du coup, quelques temps après, les locataires se sont dit « mais nous aussi, on va faire la même chose ». Et il y a eu des associations de locataires.
Anaïs.
Ce qui est très, 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 très parlant, et c'est un peu l'endroit où on voit toute la société finalement résumée par l'histoire de ce couple infernal entre locataires et propriétaires, c'est notamment dans les descriptions du bon français, dans les descriptions des bonnes mœurs qu'on met dans ces fameux règlements de copropriété aussi. C'est-à-dire que parmi les propriétaires, on n'accepte pas tout le monde. Il faut être un bon père de famille. Parfois encore, dans certains règlements de copropriété, on a ces petites lignes actuelles, oui. On a encore ces petites lignes. Un bon français à certaines périodes, mais en tout cas un bon père de famille quasiment depuis le milieu du 19e siècle.
Daniel
oui.
Goldman.
Alors, en fait, les propriétaires ont toujours cherché à avoir ce qu'ils appelaient des bons locataires. Des bons locataires, c'est-à-dire des locataires qui payaient.
D'abord solvables.
D'abord solvables, c'était ça. Et qu'est-ce que c'est qu'un locataire solvable ? C'est quelqu'un qui a un travail, qui n'est pas menacé de chômage, ça évidemment, mais en plus il faut qu'il soit de bonne moralité, pas ivrogne, etc., etc. Alors quand on dit un bon père de famille, ça c'est l'expression s'est répandue plutôt à la fin du 19e siècle, mais avant les beaux étaient si, alors les beaux, il y en avait des verbaux et il y en avait des écrits et il n'y avait aucune loi disant que on signait ou on s'entendait avec un homme, mais c'était dans la mentalité, c'était avec les hommes qu'on traitait, c'était une évidence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des femmes, mais il y en avait beaucoup. Mais donc, puisque c'était un homme, eh bien, c'était le bon père de famille.
Alors, ce qui est tout à fait intéressant dans votre livre « Locataire et propriétaire » paru chez Payot, une histoire française, Daniel Vonnemann, ce qui est très intéressant, c'est que vous pointez certains moments particuliers qui sont des moments, vous l'avez dit tout à l'heure à propos de la commune, qui sont des moments qui cristallisent des relations tendues entre locataire et propriétaire. Vous pouvez pointer, par exemple, ce moment particulier de la restauration, c'est-à-dire quand les nobles d'Ancien Régime reviennent et que d'un seul coup ils disent mais attendez, on voudrait remettre en cause tout ce qui a été fait pendant la Révolution, et où le régime qui est pourtant leur est favorable est obligé de faire des pas de deux pour éviter qu'ils récupèrent la totalité des biens qui ont ensuite été vendus, parce qu'on ne pourrait pas 30 ans plus tard retrouver la totalité de ces biens là par exemple sur le marché. Et ça c'est un moment important. L'autre moment succède, c'est Louis-Philippe, le début de l'industrialisation, la création de nouveaux quartiers à Paris, le déplacement de certains bourgeois ou de gens qui s'étaient enrichis dans ces nouveaux quartiers qui sont un peu périphériques, laissant le centre-ville plus pauvre à des plus pauvres en particulier, et d'autres moments comme après 1848, après la révolution de 48, où là évidemment Haussmann et le Louis-Napoléon Bonaparte devenu Napoléon III passent avec ce qui n'est pas encore un bulldozer, mais disons avec beaucoup de vigueur dans le tissu urbain par exemple. Et ça, ce sont des moments très importants avant ce moment de la commune que vous avez rappelé, Daniel Vonnemann.
Ce sont des moments importants, et ce sont des moments où globalement les propriétaires ont été choyés par rapport aux locataires, mais pas tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire, que c'est jamais tout à fait ça. Il y a toujours l'idée que soit par morale vis-à-vis des pauvres,
charité chrétienne,
soit par philanthropie, soit par cynisme même, on peut pas totalement écraser les pauvres, parce que s'ils sont tous à la rue, s'ils peuvent pas se nourrir et se loger correctement, où est-ce qu'on va trouver la main d'œuvre? Et c'est aussi pour ça que on a trouvé dans les mouvements réformateurs, qui n'étaient pas forcément des révolutionnaires très très vindicatifs, l'idée qu'il fallait soulager la misère populaire. Donc soit, comme vous dites, par morale chrétienne, soit par philanthropie, il y avait toujours de ça aussi, soit par intérêt bien compris.
Ou par vision socialiste plus tard.
Plus tard. Et donc Napoléon III, qui se prétendait défenseur des pauvres et qui voulait résoudre la question sociale, a essayé de construire des maisons avec un confort relatif, même certain, et avec donc il mettait de l'argent pour que les loyers soient moins chers.
Et s'inspirait d'urbanisme anglais, espaces verts, il fallait une qualité de vie. On est dans la qualité de vie, pas seulement dans le fait de mettre un simple toit sur la tête de ces travailleurs.
Et si vous allez voir maintenant, par exemple, à Paris, la cité Rochechouart, qui a donc été construite par Napoléon III, enfin par un architecte, mais mandaté par Napoléon III, on voit que, bien sûr, il n'y a pas l'eau courante partout. Enfin, maintenant, oui, ça a été. Mais il y a une qualité du bâtiment importante qui n'a pas été tellement appréciée par les gens qui voulaient y aller, parce que il y avait le bon père de famille.
Il y avait la surveillance.
Et il y avait la surveillance.
Le concierge.
Il y avait le concierge. Il fallait être là à une heure, pas trop tard, etc.
Parce que dans le trio, on peut rajouter ça pourrait être un quatuor, parce que le concierge, vous lui faites un sort particulier. Ce concierge.
Ah ben, le concierge est l'agent du propriétaire.
Mais oui, c'est ça.
Oui, c'est l'agent du propriétaire, mais là encore...
Parce qu'il touche les loyers.
Il touche les loyers, mais il est un des plus mal logés, parce que la loge de concierge, c'est une soupente. C'est vraiment, lui aussi, il est très mal logé. Mais comme il touche les loyers, et puis c'est lui qui ouvre la porte, qui ferme la porte, qui surveille, il a l'air d'être du côté des propriétaires. Il n'est pas tout à fait.
Il est souvent insulté, dites-vous, voire parfois maltraité par les locataires auprès duquel il est chargé de récupérer le loyer. Anaïs Kien.
C'est d'ailleurs un des grands axes de votre ouvrage, Daniel Volman, c'est de voir un peu comment, alors que l'État va devenir progressivement bailleur social, va louer, va favoriser l'accession à la propriété, donc va favoriser le crédit et l'endettement de certaines classes sociales pour devenir propriétaire de leur logement. Puisque ça reste malgré tout l'idéal, c'est-à-dire qu'au début, les HBM, les habitations à bon marché, ce ne sont pas exclusivement des locations, mais c'est aussi largement, je crois, de l'accession à la propriété. Et l'État va arriver progressivement à contrôler le parc d'habitations et finalement la vie quotidienne de milliers de ces citoyens pauvres.
Alors, contrôler, faut peut-être quand même pas exagérer. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que l'idéal de la propriété, c'est non seulement cet idéal qui s'est forgé au temps de la Révolution et pendant tout le 19e siècle, mais c'est aussi une question de protection. Il y a une idée de protection sociale.
Contre les mauvais sorts.
Contre les mauvais sorts. Parce que si on a acheté son logement, si on est propriétaire, si on a fini de le payer, hein, parce que si on s'endette pour 30 ans et qu'on n'a pas fini de payer, finalement c'est pareil. Mais si on a le toit sur la tête, même si on perd son travail, si on est malade, on a au moins ça. Donc l'idéal, c'est, du point de vue des classes populaires, la petite propriété ouvrière. D'autant plus que ça responsabilise, disent les penseurs, ça responsabilise le propriétaire, parce qu'ils ne disent pas « Oh, c'est pas chez moi, je peux faire n'importe quoi, c'est chez moi, donc je fais attention, je suis plus propre, je ne salis pas tout. » Il y a une responsabilisation du propriétaire.
Alors, ce qui est quand même très étonnant, c'est de voir que, tout compte fait, peut-être parce que c'est dans l'esprit commun des Français du 19e et du 20e siècle, il n'y a pas tant de révoltes. Vous avez cité tout à l'heure la révolte au moment de la Commune, mais c'est une situation exceptionnelle. On ne peut plus manger dans Paris pendant le siège. Et puis après, effectivement, il y a cette période de la Commune. Et donc, on peut considérer qu'effectivement, payer ses loyers est accessoire par rapport à la survie que l'on peut avoir dans ce Paris assiégé et la suite. Mais néanmoins, on ne voit pas tellement de tentatives. Vous dites qu'il y a des faibles tentatives ne pas payer son loyer, etc., de faire en sorte qu'on ne rentre pas dans un conflit ouvert avec son propriétaire. Et c'est assez épars et pas très organisé, dites-vous, Daniel Volman.
C'est pas très organisé parce que dans l'ensemble, le mouvement ouvrier, depuis le milieu du 19e, les années 48-50, 1848-1850, je l'ai dit tout à l'heure, se focalisait plutôt sur les conditions de travail, parce que après tout, c'était 10 heures, 12 heures par jour, donc plutôt réclamer des meilleures conditions de travail et surtout réclamer des meilleurs salaires. Et le logement, c'était, alors on le sent, on le voit, mais c'était jamais ça qui était mis en avant comme revendication.
Il n'y a pas de mouvement de très grande ampleur finalement en France lié au droit du logement, pas comme on a pu en voir dans les années 70 en Italie ou très récemment même à Tel Aviv il y a quelques années où on a vu toutes ces tentes pendant des semaines sur cette question du droit au logement et de la problématique de l'habitat de manière générale.
En c'est France, pas dans la culture si, française, si c'est quand même. D'abord, il faut pas oublier, même si ça n'a pas été si important que ça, tout le mouvement anarchiste de la fin du 19e siècle et de la Belle Époque, où ils ont fait du bruit et ils ont fait peur, parce qu'ils organisaient donc ces fameux déménagements.
On a gardé à mémoire quasiment que la peur.
la cloche de bois, essayer de pas payer, etc. Et puis après, s'il n'y a pas eu un grand mouvement, c'est que il faut pas oublier que entre 1950 et 1970, il y a eu beaucoup de constructions et dans l'ensemble, la situation du logement s'est améliorée. Donc, la revendication du logement, d'une certaine façon, et pendant un temps relativement court, un quart de siècle, a été réglée. plus ou moins. Alors après...
Ça veut dire l'extinction des bidonvilles, etc.
Absolument.
Mais il y a eu, entre-temps, renaissance plus récemment de bidonvilles, et puis la question du droit au logement qui a été mise en avant dans les années 90.
Alors,
aussi.
C'est ça, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que en 1982, stupeur parmi, on va dire, la droite, le gouvernement socialiste proclame le droit au logement en disant on va le mettre dans la Constitution. C'était 82. Ça, c'est pas fait vraiment, c'est toujours pas vraiment fait, mais il y a eu beaucoup de lois qui ont été votées et qui ont été à peu près appliquées pour le droit au logement. Ce qu'il y a, c'est que c'est extrêmement compliqué d'appliquer le droit au logement. D'abord parce que c'est pas constitutionnel, ça c'est une première chose. Et prenons la loi Dalo, par exemple. Droit opposable
au logement opposable.
Oui, droit au logement opposable. En fait, ça veut rien dire. Parce que l'idée, c'est que toute personne qui est expulsée a droit à demander à ce qu'on le reloge. Oui, très bien, mais le reloger pas gratuitement. Donc si cette famille ou cette personne a été expulsée, c'est parce qu'elle pouvait pas payer. Donc elle va payer quoi ailleurs? Et c'est pour ça que les recours, donc l'application de cette loi, les recours sont très peu élevés. Parce que les gens sont aperçus que de toute façon, ça ne donnait rien. Ils attendent qu'on les reloge. Ils ont le droit, mais ils ne sont pas relogés. Donc, il y a quand même des mouvements.
Et on sait à certains moments, par exemple, que l'État, qui est, on l'a compris en vous lisant, Daniel Vollmann, un acteur essentiel de cette question de la relation entre locataires et propriétaires, a eu quelques velléités à mettre le paquet sur la location plutôt que sur la propriété. C'est le cas, par exemple, dans les années 60, où la question de la construction rapide pour les rapatriés d'Algérie, pour après la Seconde Guerre mondiale, de très grands ensembles, par exemple, étaient beaucoup des ensembles de locatifs. Et puis, on a vu comment, dans les années 60, au milieu des années 60, les crédits de l'État se sont reportés sur l'accession à la propriété, et en particulier au pavillon, à la naissance du pavillonnaire ou à son développement de façon très intense à partir de 1966, juste avant 1968, avec des gens comme Albin Chalandon et d'autres, Daniel Vollmann.
Oui, alors en fait, il y a toujours dans l'idée des pouvoirs publics et des fameux nouveaux bailleurs sociaux, les offices d'HLM qui ont remplacé les HBM, il y avait quand même toujours l'idée que si on pouvait donner une accession à la propriété aux classes populaires, ça serait mieux. Donc ça, c'était une chose. Mais il fallait faire donner des procédures pour faire des emprunts, etc. C'était un peu compliqué. Donc, les grands ensembles des années 50 jusqu'à 70 ont été plutôt de la location. Mais avec toujours l'idée que, un, si on pouvait, ce serait mieux de les vendre. Et deux, les grands ensembles, c'est bien, mais les pavillons, c'est mieux.
Et peut-être aussi avec l'idée de mettre en corrélation la proposition de logement en location ou en accès à la propriété, en corrélation avec le marché du travail. Un marché du travail dynamique dans des périodes de plein emploi, finalement, n'exige pas la propriété, puisque on sait qu'on ne perdra pas son salaire, qu'on connaîtra moins de fragilité dans son niveau de vie. Tandis que dans une période de crise, de chômage, effectivement, avoir en face de soi des citoyens qui sont pleinement propriétaires de leur logement, leur assurent finalement un minimum et les protègent d'une certaine façon d'un déclassement.
Mais là, vous soulevez une question qui montre bien toute la complexité de l'affaire, parce que d'un côté, si on se place du point de vue de la rationalité économique, il vaut mieux des locataires, parce que s'il n'y a plus de travail à un endroit, on résilie son bail et on va chercher ailleurs. Donc c'est bien. Mais en même temps, si on n'a que des populations fragilisées, ça va pas non plus. Et donc, vaut mieux des propriétaires. Donc, c'est vraiment une affaire complexe.
C'est une affaire complexe qu'on découvrira en vous lisant, donc Daniel Vollmann, dans le livre publié chez Payot, « Locataires et propriétaires, une histoire française ». Merci à vous.
La faim, quand ça me prenait, maintenant ça va, dis-moi, je le crois. La faim, ça me connaissait, car elle et moi, c'était comme ça. La faim, faut y penser de temps en temps, ça fait les dents comme chez les bêtes féroces. fait penser. Moi j'ai dîné pas mal, et toi les autres je m'en fous. Et grand berger, quel est ce chien qui me tend les mains et ses yeux doux? La faim, y en a pour qui ça va toujours, c'est comme l'amour. La faim, y en a pour qui ça va jamais, toujours complet. La faim, y en a pour qui les vieux croutons, c'est encore bon comme la romaine. Ça gonfle, ça coupe la semaine. Dans l'estomac, ça nage un peu, ça fait ce qu'on peut, ça bouge les trous. Et dans le taffetas, ça serre un peu un cran, mon vieux, faut joindre les bouts. La faim, quand par hasard, y en a pour deux, ça fait causer. La faim pour les bavards, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça distrait. La faim, jamais en retard, cette souris-là n'attend même pas que tu la sonnes.
La faim, donc, de Léo Ferré, pour nous introduire à la deuxième partie de cette émission avec vous, Michel Bonneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Nantes pour évoquer, donc dans cette semaine que nous ouvrons autour de la question de la consommation, évoquer la question de la nourriture. Vous appelez ça l'angoisse du manger chez les pauvres. Donc entre 1780 et 1950, un livre que vous avez publié sous le titre La table des pauvres, cuisiner dans les villes et les cités industrielles. Alors vous êtes géographe de formation, mais vous êtes, vous le rappelez dans votre introduction, vous avez fait comme tous les bons géographe d'il y a quelques années, beaucoup d'histoires, donc avec beaucoup d'historiens célèbres, en particulier François Crouzet ou d'autres, et vous avez donc voulu faire cette grande enquête que vous avez menée sur le 19e et la première moitié du 20e siècle autour de la nourriture du pauvre. Alors, c'est une. Vous expliquez dans votre introduction que c'est un manque, on a un certain manque important de données précises pour pouvoir savoir justement ce que l'on mange dans les milieux les plus pauvres en Europe au 19e et au 20e siècle, qu'il faut chercher dans des données un peu éparses, Michel Bonneau.
Oui, les pauvres, même ceux qui étaient un peu plus riches que pauvres ou que miséreux, n'ont guère laissé de traces. Mmh. La cuisine des pauvres n'intéresse pas ceux qui s'intéressent à la gastronomie. Mmh. Donc les pauvres ne s'expriment pas ou très peu. Et on trouve des indications sur les pauvres écrites par des bourgeois qui sont souvent conditionnés par des soucis de moralité, mm-hmm. De vouloir faire la leçon, d'expliquer qu'il faut faire des économies. Donc il faut traquer les sources à travers les récits de vie, les autobiographies. Quelques ouvriers ont pu s'exprimer par leurs écrits dans la presse populaire également, ou la presse socialiste. Donc c'est tout un travail de recherche, de documents à travers les chansons également, mmh. qui expriment au 19e siècle, la misère des pauvres.
Mmh. Anaïs, qui a une question.
Oui, vous affirmez dans ce livre la singularité alimentaire de ce groupe social des pauvres sur lesquels vous travaillez. D'ailleurs, vous dites également que la singularité alimentaire reste un marqueur identitaire persistant, même lorsque ces groupes sont intégrés à des classes sociales plus aisées. Et pourtant, vous tentez de régler un problème évident de votre sujet dès les premières page, qui est de définir finalement ce qu'est la pauvreté, parce qu'à l'intérieur de tous ces gens sur lesquels vous avez voulu travailler, de toutes ces pratiques de table et de toutes ces pratiques de consommation, il y a des variations énormes entre régions, entre les plus pauvres, entre les un peu moins pauvres, entre les habitants de l'Ardèche et les habitants d'Île-de-France, Michel Bonneau.
Oui, les pauvres. Le 19e siècle n'est pas homogène. La première moitié était beaucoup plus dure que la seconde, où un début d'amélioration commence à se faire sentir. Ce qu'il faut voir, vous l'évoquiez tout à l'heure à propos du logement, c'est que ces pauvres sont des ruraux, des ouvriers agricoles, des journaliers, des petits artisans qui vivaient difficilement et qui viennent s'installer en ville. Donc, ils ont conservé leurs habitudes alimentaires de paysans, c'est-à-dire le pain, la soupe, l'absence de viande, les légumineuses, qu'on appelait la viande du pauvre. Donc, tout cela fait que le monde des pauvres en ville est un monde très, très diversifié. Et puis, il y a un élément important, peut-être, qui différencie ces pauvres du 19e siècle des pauvres actuels, qu'avait souligné déjà Jean Fourastier, c'est que cette pauvreté est relative. Ces ruraux venus en ville étaient encore plus pauvres autrefois. Donc, même dans cette pauvreté urbaine, il y a une petite amélioration. Quand on a été pauvre au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on a été menacé par la faim, par la mort, mort de faim, le passage en ville pouvait entraîner une légère amélioration. Donc, tout cela rend l'approche de cette nourriture des pauvres au XIXe siècle très difficile.
Alors, c'est d'ailleurs ce que vous notez dans votre travail sur la table des pauvres, Michel Bonneau, c'est ce duo, pourrait-on dire, on parlait tout à l'heure du duo de locataires et de propriétaires, ce duo entre ce que vous appelez la culture de la faim d'un côté et de l'autre côté la gastronomie de la pauvreté. C'est-à-dire que vous expliquez effectivement qu'il peut y avoir une pratique, entre guillemets, gastronomique de cette pauvreté tout au long du 19e siècle, et qu'il peut y avoir, vous l'avez noté à l'instant même, le transport avec soi des recettes familiales que l'on a eues lorsqu'on était à la campagne, qu'on transporte en ville quand on y arrive, et qu'il y a donc cette tension entre d'un côté la culture de la faim qui est toujours présente, la peur justement de manquer, et de l'autre côté la volonté tout de même, avec le peu que l'on a, de pratiquer une cuisine d'une certaine façon, Michel Bonneau.
Oui, alors là il y a deux points de vue différents. D'un côté, la gastronomie vue par la bourgeoisie qui s'impose au XIXe siècle nie la cuisine des pauvres. Les pauvres n'ont pas de cuisine. Ils mangent par nécessité et non pas par goût. Mais inversement, dans un certain nombre d'écrits, notamment exprimés par des ouvriers, on met l'accent sur une certaine cuisine, un art d'accommoder les mets qui sont hérités de la cuisine paysanne, mais qui sont un peu retravaillés et transmis.
Anaïs Kien.
On découvre aussi, en vous lisant, Michel Bonneau, la construction des pratiques de repas à l'extérieur de la maison. Vous racontez d'ailleurs avec beaucoup de force détail et anecdotes le développement des marchands de rue, de repas pris sur le pouce, de restaurants, des pratiques de restaurants collectifs, où se mélangent d'ailleurs différents types de travailleurs où ils se rencontrent et où les pratiques aussi de restaurants vont finir par entrer dans les ménages.
Oui, ce qu'il faut dire au début, c'est que les milieux populaires, les pauvres aussi, si vous voulez, mais 80% de la population était pauvre au XIXe siècle, préféraient manger chez soi. On revenait le midi pour manger.
C'est par obligation qu'on mange dehors.
C'est par obligation qu'on mange dehors, oui. Parce qu'il y a cette croyance en dehors de tout aspect financier ou économique, que la cuisine domestique est meilleure.
Il y a certaines raisons. Vous expliquez, Michel Bonneau, que parfois, disons, ce qu'on mange dehors n'est pas toujours d'une qualité exceptionnelle aussi. Il y a beaucoup, il y a un art d'accommoder les restes, mais des restes de qualité médiocre.
Oui, ça c'est évident. Dehors. Mais dehors, il y a aussi beaucoup de possibilités de manger. Vous avez évoqué les vendeurs de rue, les tripières, les marchands de pommes de terre frites. Avant les frites, on a mangé des pommes de terre chaudes à l'eau ou pommes de terre frites. Il y avait nécessité de manger parfois à l'extérieur. On emportait une gamelle que l'on faisait réchauffer, soit sur le lieu de travail, et l'on fréquentait aussi les traiteurs, les gargotes. Il y a un deuxième point. Je disais que l'on préférait manger chez soi, mais quand on ne pouvait pas rentrer chez soi, parce que l'usine était un peu éloignée, et que les moyens de transport n'existaient pas, on allait à pied, on préférait manger à l'extérieur que à l'intérieur de l'usine. Et même lorsque certaines entreprises ont commencé à installer des locaux spécialisés pour manger ou des cantines. Parce que la nourriture, et surtout cette nourriture populaire, mangée par les pauvres ou par les ouvriers, c'était pas simplement un acte de nourriture, c'était également de se retrouver entre soi. On avait tout au long de la journée de travail, des chefs sur le dos. Donc, c'était un moyen de s'évader, d'être entre soi, d'avoir un peu de plaisir ou de divertissement.
Alors, vous insistez beaucoup, Michel Bonneau, sur les évolutions tout au long du 19e siècle, la baisse de consommation de pain, l'augmentation progressive des matières grasses, du poisson et des viandes, les plus en plus de pommes de terre, de légumes, de fruits, de plus en plus de lait, de fromage et d'œufs, par exemple, et vous nous montrez effectivement que ce 19e siècle et ce début de 20e siècle n'est évidemment pas égal au point de vue de ce régime alimentaire de ceux qui pouvaient vivre pauvrement, chichement, tout au long de cette période. Et vous avez rappelé combien ils étaient nombreux, Anaïs Quien.
Oui, et d'ailleurs, dans votre ouvrage, vous évoquez une source que vous avez utilisée, à laquelle finalement on ne pense pas immédiatement. C'est la question de la littérature de la faim, c'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas assez pour mettre sur la table ou pour atteindre la satiété, on écrit, on parle et on chante sa faim. Et page 327, vous citez un petit texte de Jacques Prévert dans Événements qui évoque cette question de la faim. Avez-vous des nouvelles ? Des nouvelles de quoi ? Des nouvelles du monde ? Des nouvelles du monde ? Il paraît qu'il va changer. La vie va devenir très belle. Tous les jours, on pourra manger. Il y aura beaucoup de soleil. Tous les hommes seront grandeur naturelle et personne ne sera humilié. Michel Bonneau.
Oui, Prévert et le groupe de théâtre populaire et théâtre ouvrier du Octobre a été touché et a écrit un certain nombre de textes, de poèmes, notamment cet extrait, ce poème sur « Mange ta soupe et tais-toi », qui était en même temps une revendication sociale et politique contre la charité. Mais c'est un, vous l'évoquiez, c'est un thème ancien. Après tout, c'est l'évocation d'un monde meilleur où tout le monde pourra manger librement à sa faim. Donc c'est l'utopie que l'on voit déjà apparaître au XIIIe siècle, au Moyen Âge, dans le pays de Cocagne, mmh. où on pouvait manger et ne pas travailler, puisque...
Et où les boudins et les saucisses pendaient aux arbres, c'est ça?
Bien sûr, sans... On mangeait pas n'importe quoi. Dans ces pays de Cocagne, on ne mangeait pas de pain, parce que le pain était synonyme de travail et de labeur. Il n'y avait pas d'épices non plus, parce que les épices étaient considérées comme des médicaments. Et dans ce pays d'utopie, la fontaine de jouvence faisait que on restait éternellement jeune et qu'on n'était jamais malade. On mangeait surtout des viandes grasses, des poissons, et puis des desserts sucrés, du vin. Donc il y a toujours ce moyen, au fond, de tromper la faim par l'imaginaire. D'autres auteurs et d'autres romanciers, puisque le roman était aussi une source d'études pour cette consommation populaire.
Et c'est ce qu'on peut noter en vous lisant, et c'est une des grandes qualités de votre travail, Michel Bonneau, c'est d'avoir ainsi mêlé des ressources de ces grandes enquêtes dont on parlait il y a 15 jours dans la Fabrique de l'Histoire, donc ces grandes enquêtes sociales, Villermet, mais aussi les grandes enquêtes des Leplésiens, des adeptes de Frédéric Leplé à la fin du 19e siècle, les souvenirs, quand on en a, de ceux qui ont vécu dans ces milieux du prolétariat, ces milieux pauvres et ouvriers, et de l'autre côté, les romanciers, par exemple, vous citez l'exemple du repas du mineur, donc vu par Zola d'un côté, Augustin Viseur de l'autre, dans son livre sur la Terre humaine, donc ses souvenirs de Terre humaine, et puis également les monographies de Leplésien dans le Pas-de-Calais en 1893. C'est un ouvrage qui est effectivement très riche, justement, qui nous permet, grâce à son ampleur à la fois géographique, puisque vous traitez aussi d'autres pays que la France en Europe, mais aussi à son ampleur par la richesse des sources, de mieux comprendre ce qu'est la table des pauvres. Je vous remercie donc Michel Bonneau d'avoir participé à cette émission. La table des pauvres, cuisinée dans les villes et les cités industrielles 1780-1950, c'est aux presses universitaires de Rennes, et ça nous permet d'introduire le sujet de demain de façon absolument remarquable. On pourrait dire que c'est fait totalement exprès. Bonjour à Maurice Chardot.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez préparé avec Séverine Cassard le documentaire qu'on pourra entendre demain, où la question de la table est une question essentielle, mais pas dans les années 1780 mais 1950, mais justement à partir des années 1950, à partir d'un document que vous avez retrouvé.
Oui, la table et puis tout le reste, les loisirs, la vie quotidienne, ça commence par la découverte d'une petite archive privée il y a quelques années sur une brocante parisienne, trois agendas de 1949, 50 et 1964, sur lesquels je tombe, que je feuillette et dans lesquels je découvre effectivement des listes de courses alimentaires, mais aussi des achats de mobilier, de tickets d'autobus, de transport, de loisirs, de cinéma.
Tout cela avec le prix que cela coûte à l'époque en ancien franc, évidemment.
Exactement.
Un bonheur pour les historiens.
Toute petite archive privée, donc trois agendas utilisés comme livre de compte. Et effectivement, en se plongeant dedans, on se rend compte qu'on a accès là, par le détail, par des détails parfois minuscules, à toute la vie quotidienne d'une famille. Et donc avec Séverine Cassard, c'est cette histoire qu'on a tenté de déplier en tombant parfois sur des détails d'une intimité troublante, un poisson rouge noter le montant, 80 centimes d'euros.
Et qu'il va falloir loger et nourrir.
Il va falloir, voilà, le prix de l'eau n'est pas indiqué, mais aussi des consommations plus importantes qui recouvrent,
oui, et puis qui l'électroménager quand on commence à acheter les logements, loger ou encore les vacances que l'on va prendre, et au fur et à mesure des années 60,
c'est toutes les Trente Glorieuses qu'on a l'impression de voir s'étaler devant nous.
Et c'est ce qu'on va écouter demain.
Pose d'un antivol, le Neyman c'est l'antivol, parce qu'à l'époque, on voit ça dans les films, hein, les mecs ils enlèvent les deux clés puis ils démarrent la bagnole en enlevant les fils, donc l'antivol était optionnel, donc il a posé un antivol. On voit des gens à l'affût de la modernité, c'est des early consommateurs, je dirais entre guillemets, ils ont tout de suite très tôt tous les produits.
11 février, impôt 1140 francs, premier tiers prévisionnel. poisson rouge, 80 centimes. Dimanche 22 mars, quête, 3 francs. Quête, fin dans le monde, 5 francs. 25 mars, tondeuse BHV, 1490 francs. 26 mars, moufle, ski garçon, 22,10. Vendredi 27 mars, chips 1,10 francs, essence 80 francs.
Et maintenant nous passons au sport, pas tout de suite avec Roland Mesmer, mais avec Marina Grey qui nous annonce déjà que la saison.
La première neige
et que la saison de sport d'hiver par conséquent est ouverte.
Oui, vraiment, la première neige est bien tombée et quelques amateurs privilégiés font déjà, paraît-il, du ski dans les Alpes et dans les Pyrénées.
Ce bruit, tous les skieurs l'ont reconnu, c'est celui d'un mont de pente. Et oui, il y a quelques années, le département de la Savoie découvrait que ce paradis était, avec son immense domaine skiable de 200 km², le paradis rêvé des skieurs. Et alors, on a vu cette chose incroyable. On a vu des hommes qui, rivalisant avec les fées d'antan, ont dressé des pylônes, ont tendu des câbles où courent les téléphériques, les télébennes, les monts de pente, ont tracé des pistes, ont construit des routes. Et alors, ce paradis s'est ouvert à tous.
Poussez vos genoux légèrement en avant. Mais ce qu'il faut, pas exagérer, maître. Vous avez le buste un petit peu cassé.
Moi, je me souviens, j'avais quelques copains qui allaient au ski à l'époque. C'était vraiment 63, 64. On les regardait avec des grands yeux.
Ce qu'il faut, c'est pousser vos genoux, toujours dans votre position d'avancée. Poussez vos genoux légèrement en avant. Mais le haut du corps ne bouge pas. Le buste ne doit pas être cassé.
Voilà pour un extrait de ce documentaire qu'on aura vraiment beaucoup de plaisir à entendre dès demain. Vous l'avez réalisé, donc Maurice Chardot avec Séverine Cassard, et il nous raconte ce moment assez exceptionnel de la société française entre 1949 et 1965, quelque chose comme cela. Juste au moment des choses d'ailleurs de Georges Perec, qui raconte aussi la même chose d'une autre manière, et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, Daniel Von Mann, locataires et propriétaires. On continuera notre semaine sur la consommation avec la consommation à la Belle Époque, ça sera mercredi, et puis jeudi, dans le débat conclusif, on s'intéressera à l'arrivée des produits exotiques au XVIIe, XVIIIe siècle en Europe, et en particulier le sucre, le chocolat, le café ou le thé. C'est donc la semaine consacrée à l'histoire de la consommation dans la fabrique de l'histoire. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonna Bolivier et Aurélie Marcet. Théo Gomard était avec nous à la technique et nous remercions la technique donc de Radio France à Nantes qui ont accueilli donc tout à l'heure Michel Bonneau pour son livre La table des pauvres, cuisiner dans les villes et les cités industrielles, publié aux presses universitaires de Rennes. La réalisation, Séverine Cassard. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission quand vous le souhaitez sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, et vous pouvez la télécharger pendant l'année qui suit sa diffusion. Laissez vos commentaires sur nos pages, car on peut laisser des commentaires sur nos pages, et également sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou nous suivre sur le réseau Twitter Fabrique FC. Fabrique FC, c'est l'adresse de la Fabrique de l'Histoire.